Alors, on dit quoi?
Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Alors, on dit quoi? Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec nos invités. Les femmes sont au cœur de tous les débats dans le monde. Le féminisme n'a jamais autant été abordé dans le débat public. Cela veut dire que quelque chose bouge dans la société. Comment le statut de la femme a-t-il évolué dans les pays africains, dans votre pays, surtout dans un contexte sécuritaire précaire lié à la crise du terrorisme? Qu'est-ce qui a changé dans le statut de la femme d'hier à aujourd'hui? Nous en parlons dans Alors on dit quoi?
Alors on dit quoi? Fenaï Traoré.
Nous avons déjà des messages d'auditeurs qui nous ont laissé leur point de vue sur notre thème du jour, Théodore de N'Djamena au Tchad.
Bonjour, je suis Nudit Barque, je suis Théodore, je vous appelle de N'Djamena au Tchad. Le statut de femme qui était comme celle qui donne vie a nettement évolué dans la vie d'aujourd'hui parce que la femme est devenue aussi actrice du développement socio-économique. C'est celle-là qui aussi à cette capacité de travailler pour avoir quelque chose pour nourrir sa famille. Celle-là qui peut être une commerçante ou une entrepreneur, c'est celle-là qui peut exercer tous les métiers que l'homme pourra le faire comme infirmière, comme médecin, comme maçon et autres. Donc, le statut de femme a vraiment évolué de par l'égalité qui est née entre l'homme et la femme. Et la femme est considérée actuellement comme une personne majeure et une actrice pour le développement socio-économique dans la société, que ce soit en Afrique et partout dans le monde.
C'était notre auditeur Théodore de N'Djamena qui donnait son point de vue sur notre sujet du jour. Et à mes côtés, pour débattre de ce thème, Moussa Cissé, bonjour.
Bonjour Penaï.
Vous dressez dans un livre le portrait de 24 jeunes dames qui sont de nos jours des porte-voix des femmes au Mali, ouvrage intitulé « Les héroïnes du quotidien, elles ont osé », paru aux éditions Sciences Humaines. Y a-t-il un besoin ou une nécessité de rendre hommage à ces maliennes inspirantes?
Oui, absolument. Elles méritent bien cet hommage.
On en parlera en détail tout à l'heure. Au téléphone avec nous, Koumbaba, bonjour.
Bonjour Penaï, bonjour Moussa.
Bonjour Koumba.
Et bonjour à nos auditeurs et auditrices.
Koumbaba, vous faites partie de 24 femmes dont Moussa Cissé évoque dans son livre. Vous êtes malienne, mais vous êtes en ce moment en déplacement à Dubaï. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Koumbaba, vous êtes également communicante sur les questions de genre, généralement, spécialement les inégalités hommes-femmes. Vous avez aussi initié l'émission Moussoya au Mali. Expliquez-nous un peu en quelques mots la signification de Moussoya qui est en Bambara.
Oui, Moussoya, c'est être femme, s'assumer, assumer sa féminité. Donc, c'est une émission, contrairement peut-être à son nom, qui vise plutôt les hommes. Et parce que notre slogan, c'est de mieux comprendre la femme. Anga Mousso, femme yassa. Parce qu'on sait
qu'aujourd'hui... Oui, Famouya. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette définition, Koumbaba. Depuis Dakar, la féministe ivoirienne Mariam Bintou Traoré, bonjour.
Bonjour Penaï, bonjour à tous et à toutes.
Vous êtes créatrice du hashtag Vraie Femme Africaine. Vous êtes membre de la Ligue ivoirienne des droits des femmes. C'est important de rendre visibles ces femmes qui se battent pour faire bouger les lignes au quotidien?
Oui, bien sûr, parce que ça fait partie de notre patrimoine africain.
Oui.
Parce qu'aujourd'hui, les petites filles africaines ne savent pas trop d'où elles viennent, donc on leur raconte beaucoup de mensonges. Moi, ça me fait rigoler quand souvent j'entends « c'est la première femme à faire ceci, à faire cela », alors qu'avant, il y a eu des femmes en Afrique.
Il y a eu des femmes battantes avant.
Oui, c'est juste que dans nos livres d'histoire, on n'en parle pas beaucoup, quoi. Donc c'est important.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose qu'on écoute ensemble ce reportage de notre correspondant à N'Djamena, Junior Bekoutou.
Ce phénomène est venu ôter le sommeil, le repos et la réflexion. Beaucoup ont perdu la tête parce qu'elles ont perdu leur mari, soit leur enfant, soit leur frère. Donc, du coup, ils se sentent presque isolés.
Le terrorisme, l'extrémisme violent, quel que soit le nom qu'on utilise pour qualifier cette crise sécuritaire, elle a un impact réel sur la société en elle-même et sur la femme en particulier. Madame Yakoura Malo, originaire de la région du lac Tchad, région où sévit le terrorisme, en sait quelque chose. Couverte d'un voile communément appelé la faille en arabe tchadien, elle nous conduit dans son salon en plein milieu de la concession hautement animée. Après un échange entre les quatre murs de son salon, elle se confie en nous expliquant ce qui a changé depuis dans le quotidien des femmes.
Les conséquences de ces phénomènes jouent beaucoup sur le statut de la femme. En tant que la femme est la moitié de l'homme, disons, elle s'occupe que des travaux ménagers et autres, tantôt champêtres. Maintenant, du coup, avec ce phénomène de Boko Haram, elles sont devenues elles-mêmes chefs de ménage. Ça veut dire les orphelins, les orphelines. Toutes les charges sont retombées sur elles-mêmes, elles seules, sans autre apport.
Point de vue partagé par Clément Sianka, coordinateur pays de l'ONG internationale Equal Access, qui travaille depuis 5 ans dans la lutte contre l'extrémisme violent dans la région du lac Tchad. Il conduit un projet appelé Voix de la paix.
Les femmes sont pour la plupart victimes. Victimes parce que, comme d'ailleurs l'extrémisme violent, ne connaît ni le genre, ni l'endroit, ni rien du tout. Donc à ce moment-là, au même titre que les autres composants de la société, la femme est victime de l'extrémisme violent sur plusieurs aspects. Sur les aspects purement physiques, sur les aspects sécuritaires, sa sécurité est mise en danger. Sur le plan économique, sur le plan social, il y a tellement d'impact dans la vie des femmes qui sont exposées à l'extrémisme violent, au point que j'ai l'impression qu'on ne tient pas trop compte de cet aspect de la chose.
Dans certaines conditions, entre la responsabilité de dénoncer et la responsabilité de protéger les leurs, les femmes se trouvent dans une situation compliquée et sont amenées à prendre une décision difficile. Clément Sianka.
Parfois, sans le vouloir, complices d'une situation difficilement analysable. Je vais dire ça comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il est arrivé que vous trouverez des femmes qui sont presque forcées d'être complices. Votre fils s'est engagé. Vous faites comment en tant que société, en tant que femme? Qu'est-ce que vous faites? Responsabilité de dénoncer, responsabilité de protéger son enfant. Et parfois, ça devient difficile. Et c'est là où, des fois, on les trouve en train de faire beaucoup de choses, parfois sans qu'on ne sache, mais ça devient davantage que pour protéger son fils, son mari, ou je ne sais plus qui s'est engagé sans la concerter. Mais elle se retrouve ainsi, sans le vouloir, être impliquée dans un processus de violence qu'elle n'a absolument pas choisi.
La révolution féministe en cours un peu partout dans le monde et les réseaux ont mis en lumière la situation que vivent beaucoup de femmes africaines, notamment les femmes tchadiennes. Et l'insécurité liée au terrorisme a contribué à restreindre leur liberté. Le sociologue Sitak Yombatna Beni fait un plaidoyer en ces termes.
Imaginez un peu les femmes qui auraient dû, n'est-ce pas, être la, on va dire un peu la nourrice, la protectrice, mais également agent de développement, va finalement subir ces violences-là et vont lui enlever finalement tout le potentiel qu'elle aurait dû mobiliser pour pouvoir faire en sorte que même le développement, que les questions de développement, n'est-ce pas, avancent, que le pays avance et qu'elle reste la gardienne des valeurs, mais également celle qui va pousser, n'est-ce pas, les hommes à pouvoir faire la paix pour construire, n'est-ce pas, leur pays. Et ça, je pense que, quelque part, ça perturbe quand même le statut de la femme. Et c'est pour ça qu'il faut que l'État puisse travailler, justement, à protéger la femme contre toutes ces sortes de violences.
Au Tchad, comme partout ailleurs où le terrorisme fait parler de lui, les femmes font partie des victimes qui payent le plus lourd tribut, surtout celles qui sont dans la région du lac Tchad. Des associations essayent de changer la donne par leur action sur le terrain, mais cela reste insuffisant pour faire respecter les droits des femmes.
Merci Junior Bekoutou pour ce sujet fort important. Kumbaba, en tant que Malienne, les femmes de votre pays vivent-elles une situation semblable à celles qui sont au Tchad?
Oui, je dirais que nos femmes vivent une situation semblable. Cependant, je voudrais aussi aborder sous un autre angle, parce que très souvent, nous ne voyons que le côté victime. C'est vrai que la plupart des femmes sont victimes avec leurs enfants dû à leur vulnérabilité et le rôle qu'on refuse de leur donner d'une manière générale en termes de productivité.
Oui.
Mais qu'à cela ne tienne, les femmes sont aussi actrices de paix comme elles sont actrices de conflit. Et il ne faudrait pas aussi qu'on oublie cet aspect. Parce que le terrorisme chez nous, beaucoup de conflits intercommunautaires ou même intracommunautaires sont aussi ou prennent leur base dans l'injustice sociale.
Oui.
Prennent aussi leur source dans des conflits non résolus depuis des décennies et des décennies. Et la femme étant l'éducatrice par excellence, la femme étant celle qui narre les histoires familiales, la femme étant celle qui a la responsabilité de transmettre la culture et la tradition, fait que, de par ce rôle, à travers les chants, à travers les contes, à travers les poèmes, particulièrement dans la culture touareg ou dans la culture peu, la culture nomade, on voit que beaucoup de ces injustices, beaucoup de ces conflits intercommunautaires, intracommunautaires non tranchés sont répétés par la matriarche de la famille. Et même quand on prend par exemple le conflit avec les rébellions au nord du Mali, nous savons que beaucoup de femmes ont dû vendre leurs bijoux, ont dû faire tout ce qu'elles ont eu à faire pour soutenir la rébellion. Donc, mais tout le temps, nous idéalisons et nous ne voyons que cet aspect de la femme victime. C'est important parce que c'est la femme en général qui est responsable de l'enfant jusqu'à, en tout cas, à ses 7 ans. Et l'homme, quand il y a les conflits, l'homme quitte, l'homme part. Et la femme se retrouve, comme ça a été si bien dit dans le reportage. Mais quand on parle maintenant de résolution de conflits et que nous voulons aller à l'analyse des causes profondes, on voit que la femme est mise à l'écart.
Il faut que, pour vous, il faut que
ne sont jamais résolus de façon profonde parce qu'on ne fait que amener les hommes autour de la table. Et on voit que l'aspect victime de la femme et le fait qu'elle doit avoir sa prise de position droit au chapitre, donner sa version de l'histoire n'est jamais entendue.
Pour vous, elle doit être prise en compte dans la résolution. Pour vous, elle doit être prise en compte dans la résolution des conflits. Moussa Cissé, vous écrivez dans votre livre « La société traditionnelle malienne a réservé à la femme des rôles et places qui varient d'une ère à une autre », parlant bien sûr d'une ère géographique. Voulez-vous dire que les femmes maliennes ont leurs droits sont respectés pareillement dans toutes les zones ou en fonction des zones où elles habitent?
Bon, et la question, je crois que dans le livre, je le développe de façon plus approfondie. La femme malienne, il faut la prendre comme un ensemble.
Oui.
Quand je parle d'une ère à une autre, il s'agit des aires culturelles. La femme malienne au nord du Mali, la femme malienne au sud du Mali, ce sont des cultures différentes.
Et des zones géographiques différentes.
Les zones géographiques sont liées. Les cultures sont liées aux zones géographiques. La femme Touareg, plus au nord du Mali, n'a pas la même culture, les mêmes habitudes que la femme Songoï à Gao ou la femme Kassonké à Kaï. Donc, le droit a évolué en fonction donc de ces zones. La mentalité a évolué plutôt en fonction de ces zones, mais le droit comme un acquis positif dans l'ordonnancement juridique. Et il est bien évidemment accordé à toutes les femmes ou pas.
Une femme qui est à Bamako et une femme qui est à Gao ou Tombouctou, par exemple, est-ce qu'elles peuvent vivre de la même manière?
Au niveau du droit positif, il n'y a pas de différence entre la femme qui vit à Tombouctou et la femme qui vit à Gao. Mais bien évidemment, sur le plan social, au regard même de la culture différente, il n'y a pas forcément de similitude entre leur façon de vivre à Gao Kakaï. Mais sur le plan du droit, je le répète, sur le plan du droit, il n'y a qu'un droit unique au Mali. Et le droit, il est le même pour toutes les femmes, quelle que soit leur culture au Mali.
Mariam Binto Traoré, vous avez écouté les intervenants précédents, vous avez écouté aussi le reportage au Tchad. La situation sociale de la femme ivoirienne a beaucoup évolué ou pas?
Oui, quand même. La situation sociale de la femme ivoirienne a beaucoup évolué, mais on constate que quand il y a eu une certaine stagnation, mmh. et quand on a voulu reprendre une certaine évolution, on a remarqué qu'il y avait quand même des dents qui avaient commencé à grincer.
Oui, pourquoi ?
Parce que selon mon entendement, on a eu des luttes en Côte d'Ivoire pour les droits des femmes après les indépendances. Mais pour moi, des années, à partir des années 90 jusqu'aux années 2000, on a eu une certaine stagnation. Mm-hmm. Après, on a eu la guerre en Côte d'Ivoire et la situation de la femme a encore plus régressé parce que les femmes sont, je dirais, indirectement les premières victimes des guerres. Et je pense que ce n'est pas en général les femmes qui font les guerres. Donc, la guerre, c'est pas forcément quelque chose de très féminin. Il peut y avoir quelques femmes, mais la guerre, à la base, c'est quelque chose de...
Mais elles subissent la guerre aussi de façon indirecte.
Oui, bien sûr. Mmh, exactement. Beaucoup. Donc, on a eu une régression avec la guerre. On a plein de femmes qui ont été violées, qui ont été agressées. Vraiment, c'était... voilà. Et après, ces femmes-là n'ont pas eu justice. Et encore, on fonctionne encore en termes de... pour la situation de la femme en Côte d'Ivoire. Et maintenant, ces cinq dernières années, on essaie d'avoir un certain renouveau. On voit qu'il y a certaines personnes, il y a certaines voix, certaines mentalités qui ne voudraient pas que ça aille plus loin.
Oui.
On voudrait qu'on se contente de ce que les anciennes ont eu.
Et la femme africaine d'aujourd'hui est-elle plus libre ou brimée que celle d'hier?
Je dirais que la femme a toujours été chez nous peut-être considérée comme un bien fertile. C'est-à-dire la femme travaillait dans les champs avec les enfants et ce qu'elle gagnait. Ou ce qu'elle gagnait, c'était pour l'homme. Et avec le temps, les femmes ont demandé à être rémunérées pour leur travail.
Oui.
Donc maintenant, économiquement, oui, ça commence à aller, mais on remarque aussi que, bizarrement et malheureusement, le fait pour les femmes aussi d'être indépendantes économiquement, ça emmène encore des violences. Parce que les hommes se sont attaqués, des femmes qui peuvent partir, des femmes qui peuvent aller au-delà de leur vie. Et là, j'aimerais, si vous me le permettez, vous lire un tweet que
oui.
j'ai vu tout à l'heure sur Twitter.
Oui.
C'est un homme. Je crois, d'origine africaine, qui dit « Depuis que la femme est venue au bureau, nous avons perdu l'éducation de nos enfants, connu empoisonnement, licenciement sans cause, suspension sans motif, nourriture sans goût et infidélité avec femme de ménage, infidélité avec les conducteurs. » Donc, c'est-à-dire, en fait, ça pose déjà même la question déjà de la dévalorisation du travail féminin.
Oui.
Beaucoup de personnes pensent que les femmes ne travaillent pas ou les femmes n'ont jamais travaillé. C'est qu'il y a totalement faux.
Elles doivent rester à la maison selon leur entendement.
Exactement. Même en restant, les femmes ont toujours travaillé puisqu'on ne leur donnait pas la valeur. Et aujourd'hui, comme les femmes sont rémunérées, beaucoup de personnes ne comprennent pas.
Oui. La religion revient souvent quand on parle des droits des femmes africaines, surtout dans les pays du Sahel. On évoquera cet aspect juste après cette chanson.
Qu'est-ce que je ferais sans toi? Je sens que là que je tombe l'eau. Né au taille d'ombo, mis la mire mon air, né au taille d'ombo. Mis la tchop-tchop mon air, né au taille d'ombo. Coucou de la moula, né au taille d'ombo. Patar de la moula, né au taille d'ombo.
Love de Mandoué et Mani Bella.
Alors on dit quoi?
Vous êtes sur RFI et nous parlons aujourd'hui dans Alors on dit quoi de l'évolution du statut de la femme en Afrique francophone, surtout dans un contexte sécuritaire aggravant lié au terrorisme. Écoutons justement la sociologue et féministe sénégalaise Marie-Angélique Savané que j'avais pu rencontrer à Dakar.
Que les hommes déjà comprennent que le combat des femmes était un combat sociétal. Il ne s'agissait pas de changer les femmes contre les hommes ou de leur donner un pouvoir contre les hommes. Il s'agissait de faire des femmes des sujets qui pouvaient exprimer ce qu'elles ressentaient pour changer la société. Et ça voulait dire quoi ? On combattait un système patriarcal dans sa dimension politique, économique, sociale et culturelle. Et dans sa dimension de relation entre les hommes et les femmes, parce qu'on voulait aussi que la relation de couple change. On voit la féministe comme quelqu'un qui vient pour faire comme les hommes. Notre vision, c'est une vision d'égalité. C'est un partenariat entre hommes et femmes. Nous combattons un pouvoir masculin, pas pour mettre un pouvoir féminin, mais pour mettre un pouvoir mixte d'hommes et de femmes qui s'entendent ensemble pour bâtir une société de partenaires.
Marie-Angélique Savané, sociologue et féministe sénégalaise, elle l'a bien dit, nous combattons le patriarcat, pas pour vous mettre un pouvoir féminin, mais pour mettre un pouvoir mixte avec des femmes et des hommes compétents, que tout le monde soit pris en compte. La religion constitue-t-elle un frein aux droits des femmes, Koumbaba?
Bon, je pense que ce que la grande sœur a dit, le pouvoir patriarcat, tout le monde sait maintenant que ça ne marche pas, parce que la nature même n'est pas patriarcale. Donc, on voit que la nature nous a créés hommes et femmes, et cela a une bonne raison. Donc, si celui ou celle qui veut aller contre la nature, je pense qu'on aura beaucoup à faire. Oui. Je pense qu'il y a une certaine mauvaise interprétation des religions dites révélées, spécifiquement l'islam et le christianisme, et particulièrement maintenant, quand on voit l'application. Et on en débattait parce que vous l'avez annoncé. Moi, je suis présentement à Dubaï et je vois qu'il y a certaines libertés même ou interprétations ou pratiques religieuses que les gens prennent avec flexibilité, avec recul, avec ouverture d'esprit oui. dans un pays arabe que nous ne voyons plus malheureusement chez nous. Mm-hmm. Et ceci est très, très dommage. Je pense que c'est très, très important pour le peu que je connais déjà sur la religion musulmane. Je sais que et il est très encouragé pour tout croyant et toute croyante musulman et musulmane de se chercher elle-même le savoir, d'aller à la quête perpétuelle de la connaissance de la religion. Ça, c'est une obligation pour tout bon musulman. Et quand on cherche à connaître la religion musulmane, on voit que ça n'a rien d'antiféministe. Au contraire, je pense que les pratiques musulmanes profondes sont vraiment ouvertes à la femme. Mais il y a une mauvaise interprétation. Et je vois, par exemple, nous au Mali, et dans le cadre de notre émission, nous travaillons beaucoup avec les tradis praticiens. Nous travaillons beaucoup avec les imams, même ceux qui sont connus comme étant salafistes. Oui. Et qu'on voit leur narrative n'est pas anti-femme. Leur narrative est vraiment pour l'autonomisation de la femme. C'est vrai que sur certains champs, je vais le dire, mm-hmm. Il y a beaucoup qui ne veulent pas que la femme sorte de la maison pour travailler.
Mais ceux qui invoquent la religion, ils interprètent la religion en fonction de ce qui les arrange.
Donc, certains ne veulent pas que la femme sorte pour travailler. Mais moi, je dis que, bon, pour moi, la première femme musulmane est la mère Khadija et l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce qu'on connaît de sa vie, elle a travaillé.
Oui.
Donc, et c'est dans le cadre de son travail qu'elle a eu à embaucher le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Donc, je ne suis pas imam, je ne suis pas Malmatou, je ne suis pas prêtre, je ne peux pas trop m'avancer sur le champ religieux parce que je pense que ça, c'est vraiment des interprétations personnelles, c'est des dogmes pour quelques personnes. Oui,
c'est un champ très complexe.
Mais il faudrait que chacun et chacune prenne sa responsabilité pour aller chercher. Et j'ai bien aimé l'introduction de ma sœur Mariam Dintou qui a dit nous sommes des Africains avant d'être musulmans ou d'être catholiques oui. ou d'être chrétiens. Nous sommes des Africains. Et quand nous revisitons nos histoires, depuis l'Égypte ancienne, ce que nous savons de l'Afrique, comparé à toutes les cultures asiatiques, américaines, européennes, c'est que l'Afrique est profondément féministe. Elle est matriarcale. Donc, pour nous dire que nous qui revendiquons maintenant le féminisme, que nous essayons d'imiter les femmes blanches ou que nous essayons de porter le pantalon, je pense que ça, c'est mal connaître ton histoire africaine. Oui.
Je reviens vers vous tout à l'heure. Vous évoquez la question dans votre ouvrage Moussa Cissé, la question de la religion, justement.
Oui, oui. En fait, c'est un sujet extrêmement sensible, extrêmement complexe. Vous l'avez évoqué tout comme Kumba. Le sujet est très dense et se met dans une situation conflictuelle au Mali.
Oui.
J'ai voulu, dans le cadre de cet ouvrage, consacrer tout un chapitre au statut de la femme dans l'islam.
Oui.
C'est ma modeste contribution au débat qui est en cours. Parce que
mais l'islam ne dit pas que les droits de la femme ne doivent pas être respectés. Ça ne dit pas que les femmes doivent rester à la maison et ne pas travailler, ne pas être autonomes.
L'islam, c'est d'abord quoi ? C'est la connaissance.
Oui.
C'est la connaissance. L'islam est venu pour inciter l'homme à chercher à découvrir, à chercher à apprendre. La première sourate de l'islam, c'est Iqra, c'est apprends.
Oui.
Apprends par toi, apprends sur les chantiers, apprends à l'école, apprends dans la rue. C'est apprendre.
Oui.
Donc, et l'islam est venu pour mettre de côté un système qui était là, qu'on appelait la jahiliya, l'ignorance.
Oui.
Donc, il faudra d'abord connaître. Chercher à connaître, chercher à savoir ce que l'islam dit sur la femme.
Il faut ouvrir le champ de la connaissance aux femmes, de l'éducation aux femmes.
Et ce qui s'est dit,
ce qui s'est dit et
qui se propage, c'est une interprétation biaisée de ce que l'islam a réservé à la femme comme rôle. Kumba rappelle tout de suite notre mère Khadija, la veuve Khadija, première épouse du prophète. Mais l'islam va au-delà de ça.
Oui.
C'est l'islam qui a quand même humanisé la femme. Avant l'islam, les bébés femelles sont enterrés.
Oui.
C'est l'islam qui est venu mettre fin à cette abomination.
À cette
et à laquelle d'ailleurs toute une verset du Coran est consacré.
Oui. Bintou Mariam Traoré, c'est le système même du patriarcat qui est remis en question. Avez-vous l'impression que la donne change depuis quelques années, y compris côté religion? Est-ce que les religieux, en tout cas ceux qui invoquent la religion, sont plus ouverts de plus en plus?
Et je pense que par rapport à la religion aux femmes, c'est plus une question d'éducation.
Oui.
Parce que je me dis, en fait, en Côte d'Ivoire, par exemple, on a 30% seulement des femmes qui savent lire et écrire. Et dans beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest, on a une minorité de femmes seulement qui savent lire et écrire. Évidemment qu'elles n'iront pas d'elles-mêmes ouvrir les livres religieux. Elles vont seulement aller à la mosquée et à l'église. Et comme la parole masculine, en général, est prise comme parole d'évangile,
oui.
Elles vont seulement, comme on dit, avaler tout ce que l'homme dit. Combien d'imams à la mosquée prêchent et disent aux femmes que si elles veulent se marier, elles ont le droit de demander à leur époux de signer monogamie. On ne le dit pas. On dit juste aux hommes, vous avez droit à 4 femmes. Ça montre qu'il y a déjà peut-être une certaine volonté patriarcale de priver les femmes de leur droit, de ne pas les informer à la base. Donc, il faut que de toi-même, tu ailles. Et que toi-même, même quand tu finis par avoir toutes ces informations-là, tu viens, tu ouvres le livre saint, tu dis, pasteur, imam, j'ai découvert ça. On te dit, oui, c'est vrai, c'est ton droit, mais il faut laisser ça. Donc, il y a la volonté même de ne pas que la femme fasse des recherches. C'est pour ça que quand Boko Haram arrive dans des régions, ils enlèvent les femmes de l'école.
Oui.
Ils ne veulent pas que les femmes aient une certaine connaissance pour penser d'elles-mêmes. Et par rapport à ce que vous avez dit, je pense que oui, effectivement, il commence à avoir un certain changement. Parce qu'on commence à voir que, comme on dit toujours, les femmes portent la moitié de l'humanité. Les chefs religieux, certains en tout cas, commencent à voir que la société a besoin d'évolution. Il faut que les femmes et les hommes soient tous les deux, selon ce que moi je pense, enfants de Dieu. Quand on dit toujours oui, vous êtes enfants de Dieu, vous êtes faits de chair.
Oui.
Et je remarque aussi surtout que on nous dit tout le temps qu'on peut se repentir enfant de Dieu, mais j'ai l'impression qu'en fait les femmes n'ont pas droit à la repentance, surtout chez nous. J'ai l'impression qu'un violeur peut reprendre sa vie, mais pas une prostituée. Et
oui.
ça me choque. Beaucoup de femmes, surtout en Afrique, pensent que Dieu ne les aime pas, qu'elles sont des fautes, il faut qu'on les crucifie. Pourtant, il y a des hommes, ils sont là, ils vivent leur vie, ils font toutes les fautes. Et est-ce que Dieu, ne sommes-nous pas des femmes, comme le disait Bell Hooks? C'est la question que je me pose.
Merci pour cet apport. Restez avec nous. Et l'initiative de la semaine nous amène au Sénégal où nous retrouvons Maïmouna Yad, membre du collectif des féministes sénégalaises, collectif qui a organisé le 3 juillet 2021 un sit-in à la suite d'une nouvelle affaire de viol présumé. La mobilisation a commencé sur les réseaux sociaux avec le hashtag Justice pour Louise. Du virtuel, elle s'est transformée en une manifestation de dénonciation de la culture du viol. Cette mobilisation est notre initiative de la semaine. Bonjour Maïmouna Yad.
Merci beaucoup.
Alors, tout est parti de cette nouvelle affaire de viol pour laquelle la famille de la victime a surnommé Louise pour préserver son anonymat, a déposé une plainte depuis 2 mois, mais le dossier n'est pas pris au sérieux selon vous, alors que la loi criminalisant le viol et la pédophilie a été promulguée il y a environ 1 an et demi. Vous avez aussi organisé cette manifestation pour dénoncer le traitement médiatique des cas de viol au Sénégal.
Oui, exactement, Traoré. Je pense que vous l'avez si bien introduit. Je pense que le nom de Louise vient des féministes qui ont voulu quand même protéger.
Oui.
un peu en accord avec la mère de la victime, voulu protéger donc la victime. Donc on a créé notre hashtag Justice pour Louise. Et également, nous avons tenu un sit-in pour dénoncer les violences sexuelles. Et c'était une façon aussi pour nous de lever nos voix pour toutes les Louises. Oui. Donc, c'est pourquoi dans nos supports de communication, il est inscrit exactement « Justice pour toutes les Louises ». Donc, c'est exactement ça. Nous avons juste remarqué que depuis le vote de la loi sur la criminalisation du viol, il est extrêmement difficile de pouvoir avoir en tout cas des peines qui prennent en compte la, je dirais un peu la peine maximale prévue par la loi exactement. Donc tous nos cas c'est un peu détournement de mineurs. Alors les victimes, les auteurs de violences écopent 3 à 4 ans de prison. Alors au-delà de tout ça aussi, il faut comprendre que ce qui nous a le plus un peu choqué dans cette histoire, c'est le fait que cette jeune fille, qu'elle puisse se retrouver sur les réseaux sociaux, que ces vidéos pornographiques se retrouvent sur les réseaux sociaux, et encore une fois, on va encore faire la culture du viol, comme dans les affaires précédentes. Donc, nous avons levé nos voix pour beaucoup plus parler de cette culture du viol, qui existe bel et bien. Parce que pour nous, c'est important que les féministes puissent attirer l'attention des décideurs, l'attention des Sénégalais eux-mêmes sur l'ensemble de ces représentations extrêmement sexistes et discriminatoires que nous véhiculons, donc de, je dirais un peu de génération en génération, que nous véhiculons chaque jour et qui quand même contribuent à intensifier quand même les actes de viol, bien en tout cas trouvent toujours des excuses à ce qu'une femme puisse être violée, donc et par rapport à son accoutrement et autres.
Et après cette manifestation à Dakar, quelle suite allez-vous donner à cette affaire?
Bon, aujourd'hui, il faut savoir que nous, ce que nous voulons, c'est tout simplement, pour des prochaines étapes, intensifier nos actions. Parce que nous savons que le collectif des féministes sénégalaises, c'est un collectif qui a décidé de travailler dans le plaidoyer et la sensibilisation. Oui. Donc nous, notre travail est un apport quand même par rapport à ce que les organisations de la société civile font déjà sur le terrain, mais également ça constitue pour nous quand même de forts moments de plaidoyer afin d'amener l'État à parler de l'effectivité de l'application donc de des lois telles que la loi sur le viol, qui pour nous est une loi qui est extrêmement importante, mais qu'il puisse y avoir au moins un décret d'application ou bien dire que nous avons un complément judiciaire à amener par rapport à cette loi. C'est-à-dire, nous, au niveau communautaire, il va falloir également qu'on démantèle aujourd'hui les abus du patriarcat, qu'on fasse quand même du bruit autour de cette culture du viol, mais surtout que les communautés puissent savoir que nous devons arrêter avec le silence qu'il y a autour des violences sexuelles.
Mais votre idée aussi, c'est que les médias puissent bien traiter ces sujets-là.
Voilà un élément intéressant également qui a été traité, en tout cas au niveau du sitting, c'est-à-dire nous, au Sénégal, nous savons qu'il y a un réel problème du traitement médiatique des affaires de violence sexuelle, particulièrement du viol. Parce que c'est tout, ça revient toujours avec cette culture du viol, c'est-à-dire les médias, la façon dont ils traitent un peu ces questions de violence sexuelle, entre aussi ou bien prend en compte des fois des paramètres sexistes qui promouvent aussi la culture du viol en tant que telle. Donc pour nous, dans le cadre de notre programme donc de sur le terrain, nous avons prévu aussi, en collaboration avec les organes de presse, de former les journalistes ici au Sénégal sur ces aspects extrêmement importants afin qu'ils puissent, dans le cadre du traitement des questions donc de violence sexuelle, prendre en compte cette sensibilité-là qui est importante parce que tout le monde lit et les victimes, ce qu'ils lisent aussi à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, ça a un impact extrêmement important sur le plan psychologique, sur eux en fait. Et nous, pour nous, nous devons nous battre pour ça. Voilà, nous devons quand même nous battre. En tout cas, le collectif féministe sénégalais donc s'est réuni. Donc, nous sommes très ravis de voir aujourd'hui que toute la presse nationale internationale a repris l'ensemble donc de nos activités. Et c'est en tout cas très encourageant pour nous. bien que nous sommes extrêmement fatigués parce qu'on vit ce que les féministes vivent un peu partout. On est traités de tous les noms, mais on sait que nous sommes extrêmement engagés et nous allons continuer à lutter. Nous n'allons jamais reculer et nous allons lutter contre cette culture du viol au Sénégal.
Merci beaucoup, Maïmouna Yad. Vous êtes membre du collectif des féministes sénégalaises. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Rapidement, votre réaction, Mariam Bintou Traoré, puisque vous devez nous quitter. Vous qui êtes à Dakar, vous suivez également cette affaire qui, on peut le dire, n'est pas un cas isolé ni propre au Sénégal. Vous êtes ivoirienne. Est-ce que la Côte d'Ivoire a un instrument juridique efficace contre les violences sexuelles?
Déjà, moi, en tant que membre de la Ligue ivoirienne des droits des femmes, qui est une association féministe ivoirienne qui lutte contre la violence sexiste et sexuelle, je tiens vraiment à féliciter le collectif des féministes sénégalaises parce que c'est très important déjà de nous soutenir autrement pour que les actions puissent aller vraiment dans l'Afrique de l'Ouest. On a à peu près les mêmes problématiques. J'ai vraiment été très contente de cette mobilisation. Ça prouve que les choses commencent à bouger et que oui. Les femmes, surtout les féministes, commencent à aller au-delà d'une certaine validation de l'opinion populaire. En Côte d'Ivoire, par rapport à tout ce qui est juridique, normalement, ça va. Mais le problème réside au niveau de l'application. Et comme je dis tout le temps, ce qui tue les femmes en Afrique et chez nous en général, ce sont les règlements à l'amiable.
Oui.
Parce que vous voyez, nous sommes dans un continent où on considère que la moitié de la population, même si elle a des droits, ne doit pas utiliser ses droits, sinon ça fait d'elle une mauvaise personne. Mm-hmm. La majorité des cas qu'on a chez nous, on a pris l'année passée plus de 250 femmes victimes de violences sexistes et sexuelles en charge de tout type de violences. La majorité des cas ont été réglés à l'amiable. C'est-à-dire aucun de nos cas n'a abouti en justice. C'est-à-dire au début, on a des gens qui viendront vous dire « Oui, on comprend, c'est pas bien, etc. » Mais quand il va falloir faire appliquer la loi, on va commencer à dire « Oui, il a une famille, même son ennemi, on ne le met pas en prison, c'est un fils du village. » Est-ce à dire que ces jeunes femmes qui sont victimes de viols et d'agressions chaque jour, ce n'est pas des filles du village? Pour moi, il y a un problème d'humanisation, vraiment. Et je pense qu'en mon sens, on a beau avoir toutes les lois qu'on veut, il faut appliquer ces lois. Je pense que pour moi, à part l'éducation maintenant, en termes oui. de droits des femmes en Afrique de l'Ouest, c'est le temps de la répression. Il faut donner des exemples, il faut apprendre à protéger nos jeunes filles.
Mais quand même, les choses évoluent, hein, parce qu'on voit des victimes de plus en plus qui, même pour aller à l'encontre de l'avis de leur famille, décident de prendre la parole pour visibiliser ce qui leur est arrivé, au moins, en tout cas, pour en parler et aller chercher de l'aide. Sur ce plan-là, il y a quelque chose qui a évolué quand même dans la prise
Bien
de conscience.
Sûr. Et ça, c'est vraiment le grand pas, parce qu'il y a des structures, par exemple, comme nous, et le collectif des féministes sénégalaises qui sommes là pour leur donner de l'espoir, pour leur donner de la lueur, on leur prend la main, on leur tend la main. Déjà, je parle déjà de beaucoup de femmes qui ne sont pas scolarisées. Et déjà, le juridique, même déjà, c'est quelque chose qui est éloigné des femmes. Dans les moments de femmes ne savent pas comment aller, comment engager les procédures. Je ressens vraiment, honnêtement, la volonté d'aller au-delà, la volonté de saisir, d'avoir justice, mais le problème reste encore dans l'application. Mais au niveau de la libération de la parole, je peux dire que d'il y a 5 ans aujourd'hui, je pleure parce que je me dis que c'est incroyable aujourd'hui que les
femmes... Il y a eu un grand changement.
Exactement.
Merci beaucoup Mariam Bintou Traoré, merci d'être restée avec nous. Je rappelle que vous êtes féministe ivoirienne et vous êtes membre de la Ligue ivoirienne des droits des femmes. Merci beaucoup et je me tourne vers Koumbaba. Koumbaba, vous avez entendu tout ce qui s'est dit tout à l'heure. Est-ce qu'au Mali, il y a quelque chose qui a changé, qui a évolué d'hier à aujourd'hui par rapport à la prise de parole des femmes?
Ah oui, évidemment, il y a beaucoup de choses qui ont évolué pour quand même... donner l'opportunité aux femmes et aux hommes. Et fort heureusement, il y a beaucoup d'hommes engagés comme de la trame de Moussa Cissé, que nous appelons les Hiforchi ou les Kamale Nisara, qui ont compris que la problématique des droits des femmes et de la jeune fille est une problématique humaine. Il s'agit d'un défi de développement et de droits humains. Donc, pour cela, aujourd'hui au Mali, vous savez qu'il y a aussi la fâcheuse histoire qui relève de près de 40 ans avec les maintenant dénonciations de ce qu'on sait quand même, les allégations de violence sexuelle et sexiste grave à l'endroit des basketteuses depuis les années 1980. Et vous savez qu'à cause de cela, même malheureusement, le président mondial de la FIBA, la Fédération internationale de basket, a dû démissionner de son poste pour pouvoir faire face aux investigations qui sont en cours. Donc, et nous nous battons depuis plusieurs années, depuis spécifiquement 2016 où le débat a été mis sur la table pour qu'on puisse avancer avec un avant-projet de loi contre les violences à l'endroit des femmes et des filles. Mais il y a quand même des avancées parce que nous avons sur le champ politique, par exemple la loi 052 qui a été adoptée depuis 2015, qui institue des mesures pour la promotion des femmes au sein des nominations politiques et électives. électives, donc, et accordent un minimum de 30% à l'un des sexes. Donc ça, c'est des avancées, même comme si Bintou Mariam vient de le souligner. Mm-hmm. Nous avons de beaux textes, mais dans le cas de l'application, ça fait vraiment défaut. Parce que nous continuons à avoir les meilleurs textes du monde, mais quand il s'agit de les appliquer, nous, constamment, on les viole. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très, très malheureux, qui n'est pas respectueux ni pour nous, ni pour nos enfants, parce que c'est seulement un mauvais exemple que nous donnons pour notre public. On ne peut pas continuer à voter les lois et à piétiner ces lois. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de dommage.
Et vous direz que la femme malienne d'hier, des années 80, et celle d'aujourd'hui, il y a une grande différence, j'imagine. Celle d'aujourd'hui est de plus en plus au courant de ses droits, est de plus en plus au courant des lois qui sont votées pour le bien-être de toutes les femmes.
Oui, c'est un peu mitigé. Hein. Moi, je suis aussi de l'avis de Mariam, Bintou Mariam.
Oui.
Je dirais qu'il y a eu beaucoup d'avancées sur le champ politique, sur le champ économique.
Mm-hmm.
Mais par rapport aux libertés individuelles, je sens aussi beaucoup d'autocensure des femmes elles-mêmes.
Oui.
Vous voyez même, des fois aussi, nous passons à côté de l'essentiel. Hein, nous parlons beaucoup des victimes, au lieu de valoriser les survivantes, de démystifier certaines choses, de ne pas avoir honte. Donc, toutes celles qui subissent le martyre sont aussi des survivantes. Il faut aussi montrer le combat qu'elles ont eu à mener pour triompher.
Oui.
Donc, en général, nous-mêmes, nous continuons à nous victimiser, nous cachons les choses, nous sommes embarrassés, nous pensons que des fois même c'est notre faute. Et certaines femmes, continuent à dire, oui, elle a été violée, elle a dû faire quoi? Elle a été tuée, alors elle a fait quoi? Elle a dû faire quoi?
Oui.
C'est des fois la première question qui vient. On ne se fait jamais violer, on est violé.
Oui.
Donc la première question ne doit jamais dire elle a fait quoi ou elle portait quoi.
Les victimes sont culpabilisées. C'est important d'expliquer ça aussi aux femmes pour pas qu'elles se mettent également
Et il y a beaucoup d'éducation et on doit décomplexer certaines choses. Et ça vient beaucoup avec les communication comme vous êtes en train de le faire. Les langues doivent vraiment être libres. Nous devons donner l'opportunité à celles qui sont partantes et qui veulent raconter leur histoire, de la raconter.
Oui.
Mais des fois, on a des survivantes qui veulent parler, mais tout leur entourage va contre. Oui. Non, tu es supposé te marier plus tard. Qu'est-ce que tes enfants vont penser si tu sors comme ça et que l'on sait que tu as été victime de viol? Aucun homme ne va vouloir de toi.
Oui.
Mais tu ne vis pas pour l'homme.
Moussa Cissé, justement, vous parlez des femmes, de ces femmes-là aujourd'hui qui décident de parler, celles qui osent prendre la parole, celles qui sont indépendantes, qui disent non aujourd'hui à tout ça.
Justement, vous savez, les femmes travaillent en réseau. Elles ont cette particularité admirable de pouvoir travailler en réseau. Ce qui se fait en Côte d'Ivoire ou au Sénégal n'est pas différent de ce qui se réalise au Mali. Vous parlez tout à l'heure de la différence entre les femmes d'hier et celles d'aujourd'hui. Moi, je parlerais plutôt de complémentarité. Si ce qui est obtenu aujourd'hui l'est, c'est parce qu'hier, il y avait eu des femmes, autres héroïnes qui se sont battues. Donc, c'est le résultat de leur effort aujourd'hui qui en train d'être matérialisé en droits acquis et le travail de celles d'aujourd'hui va forcément porter les fruits demain.
Pour
la génération future, la génération actuelle et la génération future. Et très rapidement, à mon avis, il y a un point qui sort de toutes les interventions, c'est l'autocensure des dames. C'est regrettable. C'est la femme elle-même qui se censure, qui estime que, bon, au regard de telle ou telle contrainte sociale, raison sociale, je me dois de me taire pour préserver mon image, pour préserver la famille. Tout à fait d'accord. C'est un principe qu'on peut accepter, de bon sens.
Oui.
Mais la censure, à long terme, est-ce qu'elle ne contrevient pas au combat qu'elles sont en train de mener?
Il faut arriver à surmonter cette barrière-là. Tout de suite, Pamela Badjogo, qui est notre coup de cœur de la semaine. Avant de vous laisser écouter son titre, Toto, elle a un petit message pour nous.
Oyez, les gens. Alors, on dit quoi? On dit que Pamela Badjogo, artiste féministe, a.k.a. la princesse Bantou, est dans la place. Pour ceux qui me connaissent, je suis féministe. Et oui, la condition de la femme africaine et particulièrement la femme africaine francophone me tient à cœur. Et puisque vous me donnez la parole, je profite de l'occasion pour inviter nos gouvernements à investir un peu plus dans cette lutte. Car oui, plus de petites filles à l'école, plus de femmes avec leur liberté financière, ce serait une réussite pour l'Afrique. De toutes les manières, toutes les études le prouvent. Tant que les femmes se prennent en main, l'Afrique ne peut qu'avancer. Je vous laisse comme ça écouter ma chanson Toto. Toto, c'est la chanson qui vous invite à ne plus avoir peur de la différence. Eh oui, car blanc ou noir ou jaune ou rouge, nous avons tous le même sang qui coule dans nos veines. Toto, Toto, si ouais mon Toto, ouais c'est ouais vous tout ramou Toto, et n'allez ouangi mon Toto. Toto, Toto, si ouais mon Toto, ouais c'est ouais vous tout ramou Toto, et n'allez. Wangi mutoto, toto toto, asi wae mutoto, wese wae vutura mutoto enale. Si wae vulu benini, si wae bari viesi, tu le juele to, wae ti meke mimi benyanga. Wese wae vutura toto, enale enale. Tiens, affangi tous les doigts, les temps, viens si là.
De cette émission. Merci à nos invités Moussa Cissé, auteur de l'ouvrage Les héroïnes du quotidien, elles ont osé, qui vient de paraître aux éditions Sciences Humaines. Merci à vous.
Merci.
Merci à Kumbaba, communicante sur les questions de genre, les inégalités hommes-femmes et initiatrice de l'émission Moussouya au Mali. Merci beaucoup Kumba.
C'est moi qui vous remercie, Penaïchi Traoré.
Et merci à Mariam Bintou Traoré, féministe ivoirienne et membre de la Ligue ivoirienne des droits des femmes. Merci à tous les trois d'avoir répondu à cette invitation. Et je n'oublie pas l'équipe d'Alors on dit quoi, Guillaume et Beverly et surtout Jérémy Boucher aux manettes. Je vous dis à la semaine prochaine.
Alors, on dit quoi ?
En sol majeur.